Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Je vous rappelle que nous vous proposons des histoires d'Amérique cette semaine sur Europe 1 dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous emmène sur les traces des Indiens d'Amérique.
Bonjour à tous. Ces Indiens d'Amérique, on les appelle les peaux rouges, les fameux Sioux dont nous allons voir d'où vient le nom. J'ai invité une grande spécialiste des Sioux Lakota, Viviane Perret, qui est notamment une familière de la plus grande réserve de Sioux des États-Unis. Allez, en route pour un monde tellement différent du nôtre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alors nous avons tous un jour ou l'autre joué aux cow-boys et aux indiens, et quand on nous parle de Sioux, eh bien nous imaginons de grands guerriers au visage peint, couronnés d'immenses coiffures de plumes, des guerriers très agiles au demeurant et qui poursuivent sur leur Mustang des troupeaux de bisons. Nous imaginons des villages de tipis, vous savez, ces grandes tentes de cuir pointues, des villages entiers comme ça sur fond de paysages démesurés du Grand Ouest américain. Le calumet de la paix, la danse du scalp et autres clichés font partie de nos références enfantines et c'est peu dire qu'ils rendent bien mal justice à l'infinie complexité des quelques 500 nations indiennes qui vivaient en Amérique du Nord avant que les colons venus d'Europe ne viennent bousculer, et bousculer de façon souvent très violente, leurs équilibres traditionnels. Alors, depuis un demi-siècle, le regard du monde occidental, disons-le, le regard que nous portons sur les Sioux a tout de même changé. Des films comme par exemple Les Cheyennes de John Ford, ça c'est un chef-d'œuvre. Un homme nommé Cheval, bien sûr, d'Eliot Silverstein, ou plus récemment Danse avec les loups de Kevin Costner. Tous ces films et bien d'autres ont tenté de donner des Amérindiens une vision plus objective, plus subtile que celle du classique western. Plus objective, mais attention, pas dénuée d'un certain romantisme dans le cas du film de Costner. Par exemple. Depuis un quart de siècle, le grand public s'intéresse au mode de vie, aux sociétés, aux croyances des Indiens d'Amérique. On reconstitue peu à peu, sinon tout à fait, leur histoire, car ce sont des peuples sans histoire, comme tous les peuples heureux. Mais en tout cas, on reconstitue l'histoire de leur peuplement. On recrée certaines de leurs cérémonies. On commence à parler encore à mots couverts de l'extermination quasi systématique dont ils ont été l'objet. Bref, on s'intéresse aux Sioux pour eux-mêmes. Alors, d'où vient ce mot « Sioux » ? Il a été utilisé par les Français depuis le XVIIe siècle. Il a été emprunté, nous dit le grand spécialiste Philippe Jacquin, qui est mort il y a une dizaine d'années, il a été emprunté à la langue des Obigeois, dans laquelle ennemi se disait « Nadonessiou ». Et les Européens, qui en avaient assez sans doute de dire « Nadonessiou », ont gardé seulement la dernière syllabe. C'est ainsi qu'est né le terme de « Sioux ». À l'époque de l'exploration de l'Amérique du Nord par les Français, les Sioux se concentraient au sud-ouest des Grands Lacs. On les appelait les Sept Conseils dans la langue qui les unissait, le Dakota. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette langue, évidemment, sur ce groupe de langues, devrais-je dire, du reste. En vérité, il y avait là trois immenses familles, les Santi, les Yankton et les Teton, qui sont morcelées en un grand nombre de tribus, qu'on appelle donc aujourd'hui, dans le langage politiquement correct, des nations, et qui s'affrontaient entre elles. Il ne faut jamais l'oublier. Quand je dis qu'elles s'affrontaient, il y avait là des affrontements d'une grande violence. Ces nations n'étaient pas vraiment comme on aurait tendance à l'imaginer avec nos mentalités occidentales. Elles n'étaient pas vraiment dirigées par les fameux chefs Sioux. Les grands chefs, avec l'image qu'on peut s'en faire, étaient plutôt des sortes de guides moraux, largement dépourvus d'autorité temporelle, mais qui bénéficiaient d'un magistère spirituel incomparable. Ce que nous avons peut-être le plus de mal à nous figurer, c'est la place au sein des tribus des diverses sociétés qui coexistaient. Des sociétés, c'est-à-dire en quelque sorte des groupes trans-tribus, si je puis dire. Nous verrons tout à l'heure, en compagnie de Viviane Perret, si ce que je vous dis là est acceptable. En tout cas, ces sociétés, et je pense notamment aux sociétés militaires, tenaient une place primordiale chez les Sioux. Alors, elles avaient, pour ce qui est des sociétés militaires, elles avaient des noms assez variés, divers. Les chiens, les corbeaux, les bisons, les portées de renards. Elles étaient là essentiellement pour transmettre tout un savoir. Savoir, encore une fois, technique et de combat, mais savoir également moral. On privilégiait brillaient en leur sein avant tout le courage, la capacité du combattant à se mettre lui-même en danger. Vous savez, on dit que rien n'était plus valorisant pour un jeune guerrier Sioux que d'aller toucher de sa main ou au moins de sa lance l'ennemi, plus qu'encore que de le blesser ou même de le tuer. Réussir à accomplir un acte de bravoure, on appelait ça un coup, et ça vous donnait le droit, dans le cadre de certaines cérémonies sur lesquelles nous allons revenir, ça vous donnait droit à une plume d'aigle. Évidemment, on additionnait comme ça, on accumulait les plumes d'aigle jusqu'à constituer les sublimes coiffures que collectionnent aujourd'hui à travers le monde occidental un certain nombre de grands passionnés. La plus curieuse des sociétés qui animait et qui tenait, si je puis dire, ces nations Sioux, c'était la société des Eyoka. Vous savez, ces Indiens qui faisaient tout à l'envers. Ils avaient en quelque sorte, sinon inversé les valeurs, en tout cas inversé les processus. On dit qu'ils se lavaient à la poussière et qu'ils allaient ensuite se sécher dans la rivière. On est là très proche d'un certain nombre de rites qui sont observables tout simplement dans le sous-continent indien. Ça devrait d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille. Le ciment de ces sociétés, c'est évidemment la religion, en tout cas la spiritualité qui s'exprime, une forme d'animisme assez particulier qui néanmoins s'organise autour d'un panthéon et d'un être suprême, le fameux Wakantanka, auquel on rend constamment les plus grands respects. La nature est au cœur de la spiritualité indienne. Tout est vivant chez les Indiens. Les forces surnaturelles imprègnent en quelque sorte chaque élément et tout le travail, car c'en est un, tout le travail, c'est d'être capable d'apprivoiser ces forces et de les mettre en quelque sorte de son côté, en tout cas peut-être de se fondre avec elles. C'est au cours de l'été, généralement au début de l'été, que se déroulait le rituel collectif de la danse du soleil au moment des grandes chasses aux bisons. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce que pouvait être cette danse du soleil. Alors, de quoi vivaient les Sioux? Eh bien, ils vivaient essentiellement de cueillettes, de ramassages divers qui étaient plutôt le domaine des femmes, et puis bien sûr de chasse, et notamment de chasse aux bisons. C'était ces extraordinaires expéditions au moment, à la fin du printemps. Vous savez qu'il y avait plusieurs manières de chasser le bison. La plus courante était d'attirer des groupes d'animaux vers une falaise ou vers une rivière un peu encaissée où ils venaient se briser les pattes. Mais il y avait aussi, en quelque sorte, des combats singuliers. D'abord à l'arc et puis peu à peu, à mesure que les rapports avec l'homme blanc, l'homme occidental, se sont développés, avec des armes à feu, bien entendu. Le symbole de pouvoir et de richesse chez les Indiens, à partir du moment où les Comanches notamment se sont mis à apprivoiser ces chevaux issus des camps espagnols du Mexique et qui peu à peu s'étaient répandus dans les plaines du Sud, la grande richesse, c'était de posséder des chevaux, les fameux Mustangs, vous savez. Certaines familles Sioux comptaient jusqu'à une centaine de chevaux. On les échangeait, on les élevait, on les vénérait. Ils étaient devenus peu à peu quasiment à la place du chien et bien mieux que l'aigle, le symbole même du développement de ces nations.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Les nations Sioux sont à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1 et qui dit société Sioux, Franck dit forcément animaux.
Je vous ai parlé des bisons, je vous ai parlé des mustangs. En même temps, il est difficile d'y échapper. Vous savez que le bison était littéralement au cœur même de l'économie, si j'ose cette incongruité, de l'économie des Sioux. Le cuir des bisons servait à fabriquer des vêtements d'hiver, les mocassins, les fameux mocassins, toute la couverture des tipis, des tambours, des boucliers, etc. La seule fabrication d'une enveloppe de tipis nécessitait entre 6 et 28 et même jusqu'à 32 peaux. C'était très exigeant. Avec les poils du bison, on tissait des cordes. On rembourrait les berceaux, on fourrait des gants, les tendons servaient bien entendu de cordes pour les arcs, on fabriquait des alènes et des couteaux avec les os, on fabriquait des cuillères et des gobelets dans les cornes, et le crâne même du bison était devenu une sorte d'objet totémique d'une importance considérable que l'on trouvait souvent près d'un mort ou dans un lieu de prière. Le crâne de bison comme emblème littéralement de cette civilisation. Alors, je vais revenir dans un instant avec Viviane Perret sur tous les aspects de cette société. Ce que j'aimerais, c'est que nous voyons à grands traits d'où venaient tous ces Sioux. jusqu'au début du 19e siècle, il faut bien être conscient que l'ennemi du peuple Sioux, ce n'est pas le blanc occidental, c'est d'abord et avant tout les voisins du Nord, hein, les grands ennemis du Nord. À mesure que les Sioux sont refoulés de plus en plus vers le Sud, on va voir se constituer une sorte d'empire tout le long du Missouri et dans les Black Hills. À ce moment-là, les Blancs s'aventurent assez rarement dans ces territoires Sioux. L'incident le plus grave, il est très connu, au printemps 1732. C'est à cette époque-là que le fils de l'explorateur Pierre de la Vérendrye est surpris avec des coureurs de bois. Ils étaient 29 en tout. Ils rentraient d'une expédition et là, ils sont surpris par une centaine de Sioux et on va les retrouver, bien entendu, massacrés. Je cite le rapport de l'époque, les têtes des Français étaient posées sur des robes de castor, la plupart sans chevelure. Alors là, on va y revenir sur cette histoire du scalp. Le missionnaire avait un genou en terre, une flèche dans le côté et le sein ouvert. Le sieur de la Vérendrye, le dos ciselé à coups de couteau, une hache enfoncée dans les reins, sans tête, le corps orné de jarretières et de bracelets de porc épic. Évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Sioux avaient frappé fort et ils avaient voulu sans doute faire un exemple. Peu à peu, les liens entre ces populations et le colon, notamment français, vont s'améliorer, vont se détendre dans les années 1770-1780. C'est à ce moment-là qu'on voit les armes à feu, qu'on voit la verroterie, qu'on voit les objets en fer, mais aussi tout simplement qu'on voit l'alcool pénétrer chez les Sioux. C'est également au milieu du 19e siècle que sont établis les premiers grands accords, notamment le traité de Fort Laramie en 1851, où par lequel les autorités, les nouvelles autorités américaines à Washington acceptent de reconnaître la souveraineté Sioux, à condition que de leur côté, les Sioux veulent bien autoriser la traversée de leur territoire et la construction d'un certain nombre de forts. La vérité, c'est que la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or, bien entendu, dès 1849, mais plus encore et de façon bien plus cruelle, les chantiers rendus nécessaires par le développement du chemin de fer américain, tout ça va devenir extrêmement envahissant et va créer pour les Sioux une situation intenable. En 1862, le chef Little Crow, le petit corbeau, va soulever une centaine de guerriers qui s'attaquent à des fermes isolées, qui massacrent les habitants. Évidemment, il va y avoir des rétorsions. On va lancer l'armée contre les Sioux. Plus de 300 guerriers sentis sont à ce moment-là capturés. Ils vont être jugés et condamnés à mort. C'est le président Lincoln qui va gracier la quasi-totalité d'entre eux. Il ramène les condamnations à 38. Ces 38 Indiens seront pendus en public le 26 décembre 1862 à Mankato. Ça a été un moment très important dans toute l'histoire de la résistance des Sioux. Résistance qui s'incarnera plus tard dans les chefs Oglala, Red Cloud et Crazy Horse, hein, Nuage Rouge et Cheval Fou, qui vont nouer une alliance avec les Cheyennes et avec les Arapahos. Cette alliance va permettre de lancer une véritable guérilla contre les colons occidentaux et c'est une époque de très grande dureté, une époque de très grande violence. On se rappelle essentiellement, bien entendu, l'initiative du chef Sitting Bull. Ça, c'était au printemps 1876. Le chef Sitting Bull était convaincu qu'il allait remporter la victoire face à celui qu'on appelait le tueur de Squaw, c'est-à-dire le général Custer. Et en effet, le 7e régiment de cavalerie de Custer va être bientôt encerclé. C'était le 25 juin 1876 par plusieurs centaines de Sioux. Et c'est une défaite terrible qui va faire un bruit considérable à Washington, bien entendu, et d'autant plus que la presse s'empare immédiatement de l'affaire. Custer va entrer au panthéon des héros américains comme martyr et défenseur de la civilisation, un comble, mais c'est aussi, pour les Sioux, cette première victoire est en même temps le début d'un véritable recul. C'est le début des grandes réserves, avec un encerclement, avec une paupérisation. Et avec cette conversion forcée d'un peuple nomade, d'un peuple de chasseurs, à l'agriculture, à une agriculture qui ne les nourrira malheureusement pas. Je ne vous ai pas parlé du massacre de Wounded Knee Creek, hein, évidemment, c'est dans cette vallée de Wounded Knee Creek, dans le Dakota du Sud, qui n'en finit pas de pleurer les centaines d'Indiens de la tribu Lakota, hommes, femmes et enfants, massacrés en 1890 par ce même 7e régiment de cavalerie des États-Unis. En 1973, c'est-à-dire plus de 80 ans après ce massacre, 300 Sioux Oglala, rejoints par des sympathisants de la cause amérindienne, devaient rester assiégés pendant 71 jours dans ce village de Wounded Knee qu'ils occupaient pour demander la reconnaissance de leurs droits et de leurs terres. Ils ont été assiégés là par quelques 2000 agents fédéraux et agents du FBI. Mon invité cet après-midi, Viviane Perret, a passé chez les Sioux Lakota dans la réserve de Pine Ridge de longs moments. Elle les connaît bien, elle les a étudiés et elle va nous permettre de les connaître un peu mieux. Consacrer trois quarts d'heure aux Sioux et vouloir résumer dans si peu de temps autant de variétés et peut-être même parfois autant de contradictions, disons-le, c'est bien entendu un tour de force. Et je ne vous demande pas, Viviane Perret, l'impossible, mais je suis ravi que vous soyez des nôtres. Il faut savoir que vous connaissez très bien ces peuples et ces nations. Vous avez été chercheur pour le fonds Garlow auprès du musée Buffalo Bill Historical Center à Cody, donc dans le Wyoming. Et vous avez fait des recherches à cet égard sur deux sujets, les voyages de Buffalo Bill en France, ses grandes tournées, et puis les relations qu'il entretenait et que sa société entretenait précisément avec ses Indiens. Donc vous connaissez notamment très bien la réserve de Pine Ridge.
Alors bonjour Franck Ferrand, bonjour. Ce sont avant tout effectivement les Indiens Lakota que je connais, puisque le show Buffalo Bill a commencé à partir de 1883 et dès 1886, Buffalo Bill a commencé à employer des Indiens Lakota. Et en m'intéressant à Buffalo Bill, je me suis intéressée beaucoup plus particulièrement à ces Lakota. Alors, je vais peut-être vous expliquer un petit peu
ce que... Oui, vous êtes venu avec une carte des États-Unis qui est très parlante. Alors, on est à la radio, c'est pas évident.
On est à la radio,
mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces nations indiennes, toutes ces nations Sioux, se répartissent sur toute la partie occidentale des États-Unis. Vous coupez en gros les États-Unis d'Amérique en deux et vous avez toute la partie ouest qui est littéralement semée de réserves. C'est le terme ?
En fait, si vous repartez en arrière, comme vous l'avez très bien fait dans votre introduction, quand vous disiez 500 nations, en fait, je voudrais que les auditeurs imaginent ça un petit peu comme si on disait les Européens.
Oui, voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu vague.
On ne parle pas d'Indiens en désignant une seule culture, une seule langue, un seul mode de vie, mais on doit parler des Indiens comme nous parlerions des Européens, c'est-à-dire des personnes vivant sur le même continent, mais avec des langues et des coutumes diverses. C'est évident que pour nous, vu de l'extérieur, les Indiens ont beaucoup de points communs. Seulement, il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous nomades. Il y avait des semi-nomades, des Indiens sédentarisés. Tous ne portaient pas des plumes, des bonnets avec des plumes et tous ne faisaient pas des danses autour d'un feu. Donc, ils sont effectivement très différents. À partir du...
Quand on dit les Sioux, c'est comme si, vous me disiez avant que l'émission ne commence, c'est comme si on disait les francophones. C'est un peu vague, évidemment.
Voilà. C'est-à-dire que vous aviez, comme vous l'aviez très bien expliqué, l'origine est donnée par des ennemis. Eux-mêmes se sont toujours appelés Lakota, Nakota ou Dakota. Pourquoi ? Parce que la langue qu'ils parlent se modifie selon les trois sous-groupes et à chaque fois elle change avec la consonne Dakota, Lakota et Nakota. Alors en fait, les Lakota, ils appartiennent au Conseil des Sept Feux, comme vous disiez, ce qui correspond aujourd'hui à la nation Sioux, mais cette nation a très très vite évolué en trois groupes. Les Dakota, comme vous disiez, qui par exemple étaient appelés aussi Santee. Les Lakota, qui étaient appelés Tétons, qui se sont installés dans les territoires à l'est de la rivière Missouri. Et puis les Lakota, à leur tour, se sont subdivisés en sept groupes.
Les sociétés dont je parlais concernaient plusieurs nations, bien entendu. Elles étaient transnationales, en quelque sorte.
Alors, elles étaient, dans ce dont vous parlez, c'était plus trans-Sioux. On va pouvoir reparler de la propriété privée, mais les Sioux avaient bien la notion de territoire. Et d'ailleurs, ils en ont mangé à leurs voisins, quelques-uns. Donc, en fait, étant donné que les Sioux, la nation Sioux, circulait dans son nomadisme par ce qu'on appelle un tiospaillé, c'est-à-dire un clan, un groupe d'individus qui étaient reliés ensemble par les liens du mariage, les liens du sang et de l'adoption. Vous pouviez effectivement être d'une autre tribu, d'une autre nation, mais il fallait vous fondre dans le groupe. Donc les sociétés correspondaient à des tribus, pas forcément à un typos paillé, mais à une tribu.
Nous sommes bien en présence de groupes humains extrêmement peu hiérarchisés. Le pouvoir au sens propre y est réduit à sa plus simple expression.
Alors le pouvoir en fait n'est pas du tout considéré comme nous avec l'élection d'un gouvernement.
Ça, oui. Voilà.
C'est une prédisposition naturelle d'une personne dans le clan.
Pour sa sagesse.
Pour sa sagesse ou pour ses qualités guerrière, ce qui voulait dire que vous pouviez aller vers l'un ou vers l'autre, suivant la question que vous deviez vous poser. On a vu cependant, vers les années 1835-1845, on a vu quand même des clans, des tillots spaillés se regrouper ensemble autour d'un leader plus charismatique que les autres, parce que les circonstances s'y prêtaient, parce que les Indiens devaient faire face à des circonstances militaires qui mettaient en jeu leur vie.
Il fallait qu'ils s'organisent, bien sûr.
Et qu'il fallait qu'ils s'organisent. Donc on a vu apparaître ce que nous on nomme les grands chefs, comme Sitting Bull, comme Crazy Horse, et comme tous les grands noms, Red Cloud, tous les grands noms qu'on a vu apparaître au moment des guerres indiennes.
La spiritualité était omniprésente, hein. On vivait dans un monde quasi magique.
Alors oui, la spiritualité est très présente et à ce sujet, je ne peux pas m'empêcher de vous rapporter cette petite anecdote, mais vous avez eu bien sûr des enlèvements de Sioux par d'autres nations et un Sioux entre autres a été enlevé par une tribu Comanche. Il y a vécu une bonne dizaine d'années avant de pouvoir rentrer chez lui et il s'était plaint de la pauvreté de la spiritualité Comanche. Donc pour la nation Sioux, c'est particulièrement important. Les Sioux, effectivement, avaient une cosmogonie extrêmement développée. Et en plus, il est de la tradition, pour pouvoir élever ses enfants, de raconter sans arrêt des histoires. Et ces histoires racontent la cosmogonie. L'âge le plus important, c'est entre 14 et 19 ans, où l'Indien, le jeune Indien, devient un homme. Et il faut donc qu'il intègre toutes ces histoires spirituelles qui forment le monde Sioux. Parce que la spiritualité n'est pas détachée. C'est pas on va le dimanche matin à la messe spirituelle indienne et puis le reste du temps on fait autre chose. C'est tous les jours, chaque action est baignée dans une spiritualité.
C'est une action individuelle. Il y a aussi des rites collectifs, bien entendu, au premier rang desquels vient la mystérieuse et fascinante pour nous danse du soleil. Nous y revenons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux sociétés Sioux. Et pour en parler, Franck, vous recevez Viviane Perret, qui est chercheur subventionné par le Fonds Garlow auprès du musée Buffalo Bills Historical Center. C'est à Cody, dans le Wyoming, aux États-Unis.
Nous revenons aujourd'hui sur l'infinie variété, mais en même temps sur les éléments fondateurs, essentiels de cette culture, civilisation Sioux, comment pourrait-on l'appeler, Viviane Perret?
C'est toute une façon d'appréhender le monde qu'on ressent, y compris dans la spiritualité, dans les actes de tous les jours, dans la langue. C'est tout un univers qui a été sacrément massacré et qui
Alors,
est extraordinaire.
Nous allons venir tout à l'heure aux différents massacres et notamment à celui tellement emblématique de Wounded Knee. J'aimerais avant qu'on revienne sur cette fameuse danse du soleil qui nous fascine, qui durait, donc ça avait lieu au moment à peu près du solstice d'été, et ça durait pendant 4 ou 5 journées entières et nuits.
Deux périodes de 4 jours avec des prières et des auto-sacrifices pour rendre grâce au grand esprit. Il faut vraiment garder en mémoire que tout ce qui se fait, tous les rites qui se font dans la culture Sioux, dans la spiritualité Sioux, ne sont jamais, au grand jamais, pour un unique développement personnel. Le développement personnel, spirituel de chacun
s'intègre
sert à la communauté.
Chose,
voilà, il sert à la communauté, sinon il ne sert à rien pour un Sioux. Et pour les Indiens en général. C'est vraiment ce principe communautaire. Alors, les Européens, lorsqu'ils sont arrivés dans ce qui sont maintenant les réserves Sioux, ont été complètement horrifiés par ce qu'ils considéraient comme des actes de barbarie et ont carrément interdit, à partir de 1879,
oui, parce qu'il y a
la danse du soleil.
Il y a de la scarification et de l'automutilation, enfin modérée, mais tout de même, ça devait être très spectaculaire à voir.
C'était très spectaculaire à voir, c'est un rituel qui se fait sous un œil communautaire.
Les deux derniers jours. Hein,
sont que les deux derniers jours, et c'est ça aussi, c'est que ça nous fascine. Comment est-ce qu'on peut supporter de tels actes qui nous semblent barbares? Comment est-ce qu'on peut endurer autant de souffrances pendant 2 jours? Mais ça n'est quand même qu'une partie de la danse du soleil. La danse du soleil est vraiment
générale,
une danse
oui.
communautaire et destinée à la communauté. Alors, cette cérémonie collective, elle permettait d'avoir des possibilités de communication avec les esprits. C'est vrai que cette communication était à son comble avec ce sacrifice des danseurs qui était, effectivement, plantaient des petits os de bison ou d'aigle sous la peau et puis attachés à des cordes. Et effectivement, ça entraînait des scarifications. Mais toujours, je le répète, après des journées de prière, de préparation, de purification, ça n'était pas du tout pour simplement montrer qu'on était brave. C'était vraiment pour offrir, décupler son courage pour la communauté.
Alors, bien sûr, nous faisons ici une émission d'histoire, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il en est aujourd'hui dans ces réserves indiennes. Il y en a une que vous connaissez en particulier, c'est celle de Pine Ridge.
La réserve de Pine Ridge, qui est la seconde réserve la plus importante des États-Unis, la première étant celle des Navajos, c'est 80% de chômage. C'est malheureusement une réserve qui n'a pas les richesses du sous-sol que d'autres réserves ont pu avoir, qu'elles ont défendues d'ailleurs très très chèrement. Il a fallu par exemple que les Navajos se battent pour dire tout ce qui s'exploite dans le sol nous appartient.
Elle c'est n'a pas le cas, Pine Ridge, c'est très pauvre en
fait. Il n'y a strictement rien.
Il n'y a pas d'avenir pour les gens qui vivent là.
Alors, c'est tout le problème des réserves, c'est être indien dans la réserve ou se fondre dans la masse en quittant la réserve. Or, il y a encore...
Toute la problématique américaine, finalement.
Toute la problématique d'être indien aux États-Unis, parce que quand même, les Indiens n'ont jamais été reconnus comme nation étrangère par la Constitution, et en même temps, ils n'ont pas été américains avant 1924.
C'est sur le territoire de cette réserve que se trouve Wounded Knee, le lieu de mémoire par excellence, lieu de souffrance.
C'est aussi le lieu où on peut dire que ce sont là où ont pris fin les guerres indiennes, parce que les Apaches et les Sioux ont été les derniers à déposer les armes. Et avec le massacre de Wounded Knee, il y a eu effectivement un terme à la résistance indienne et vraiment le début d'une intégration forcée. Après le massacre de Wounded Knee...
C'était en 1890.
En 1890, en fait, Sitting Bull a été assassiné et donc le clan de Sitting Bull s'est précipité vers Bigfoot à Wounded Knee parce qu'ils pensaient qu'ils allaient aussi être massacrés. Et ils ont connu une fin terrible, 500 militaires avec des mitraillettes contre 300 civils, des femmes, des enfants qui ont été massacrés.
Composé par John Barry, extrait de la bande originale du film de Kevin Costner de 1991, vous avez certainement reconnu Danse avec les loups. On retrouve Franck et son invité sur Europe 1.
Parmi les grandes figures dans lesquelles s'incarne la mémoire des Sioux, il en est une sur laquelle j'aimerais que nous nous attardions un peu, si vous le voulez bien, Viviane Perret. C'est celle de Lost Bird, qui est justement une enfant réchappée du grand massacre de Wounded Knee en 1890.
Mais oui, on a trouvé le pauvre bébé à moitié mort de froid.
Lost Bird, ça veut dire l'oiseau perdu.
L'oiseau perdu, oui, à moitié mort de froid dans les bras de sa mère, qui elle était complètement gelée, et qui est morte pendant le massacre. Et Lost Bird a été adopté par le général Colby. Et là, on assiste vraiment à quelque chose qui est caractéristique dans cette période des États-Unis, c'est que d'un côté, nous avons un pays ségrégationniste. D'un côté, vous avez les Noirs qui ne doivent absolument pas se mélanger à la population blanche. Et de l'autre côté, vous avez une intégration forcée des Indiens. C'est à cette même période qu'on va ouvrir des écoles. Lost Bird ira dans l'une de ces écoles indiennes d'ailleurs. À partir de 1879, le Bureau des Affaires indiennes va ouvrir 26 écoles destinées aux enfants. La plus connue, c'est Carlisle School en Pennsylvanie, où on enlève les enfants à leurs parents. On les emmène dans ces écoles, on leur interdit...
C'est de la déculturation forcée.
Forcée. Alors, il y a eu une chose qui était positive, c'est que tous ces enfants se sont retrouvés avec beaucoup d'autres nations indiennes. Donc, il y a eu un regroupement, il y a eu déjà un début de fraternisation, parce que, comme vous le disiez en introduction, ces nations indiennes se battaient aussi entre elles. Oui. Mais on a obligé ces enfants à se couper les cheveux, ce qui pour un Indien est terrible puisque dans les cheveux longs réside aussi la force. On les a empêchés de parler le Lakota. On les condamnait à des professions subalternes. On les battait. Il y a eu des enfants qui sont morts d'avoir été fouettés. Donc la petite Lost Bird, on a l'impression qu'elle va échapper à ce destin tragique en étant adoptée par la famille Colby. Et en fait, elle va vivre une vie terrible.
Pourquoi le général Colby lui-même va-t-il l'adopter ? C'est un hasard ?
Alors, ça n'est pas un hasard, c'est que c'est une charité très chrétienne qu'il fait là. Il ne lui viendrait pas l'idée d'adopter un enfant noir. En revanche, adopter un enfant indien, c'est participer à la nation, à l'intégration de ces Indiens pour devenir américains.
C'est là qu'il faut souligner la différence de traitement réservée d'un côté aux Noirs, ce sera la ségrégation, et de l'autre aux Indiens, c'est cette espèce d'intégration forcée dont vous nous parlez.
Voilà, on les oblige. Alors déjà, le nomadisme, on y met un terme avec les réserves. On met un terme à leur possibilité de chasser puisqu'on va leur retirer les fusils. On les oblige à devenir des fermiers. Il y a tout un système comme ça d'intégration. Il y a beaucoup de mouvements, plein de bonnes volontés qui vont dire « mais on va faire d'eux des vrais Américains ». Je rappelle qu'ils n'ont toujours pas la possibilité d'être citoyen américain. Mais par exemple, une femme indienne qui épouse un blanc aura le droit de recevoir la nationalité américaine. Donc il y a cette espèce d'intégration forcée à tous les échelons et qui aboutissent à une pauvreté terrible dans les réserves, des Indiens qui ne savent pas utiliser ce qu'on leur donne. Et là, je peux vous citer une anecdote que je vous avais rapportée, où lorsque, au moment des rations, puisqu'ils n'ont plus le droit de chasser, on leur a enlevé leur fusil, on leur a enlevé la possibilité de se déplacer sur le territoire, le bison n'existe quasiment plus, on leur livre des sacs de farine. Ils n'ont jamais vu de farine de leur vie. Donc résultat, ils vont vider les sacs de farine par terre et récupérer la toile de jute des sacs, parce que ça, ils savent en faire quelque chose. Voilà, donc ça entraîne une pauvreté totale dans les réserves. Et on imagine que l'Osbird...
Alors que devient-elle, notre oiseau perdu.
Eh bien, le général Colby a très rapidement une maîtresse avec laquelle il va vivre de manière cachée puis de manière publique, délaissant sa famille, quittant sa famille. Sa femme, Clara Colby, est une suffragette. Elle défend la liberté des femmes, le droit de vote des femmes et le droit au travail des femmes de manière générale. Elle dirige un journal et c'est elle qui va hériter de cet enfant qu'elle n'avait pas demandé en premier lieu, puisque c'est son mari qui lui a imposé l'Osbird. Et elle va s'en occuper avec un amour et beaucoup de désintéressement en étant complètement perdue devant une situation qui va se répéter énormément parmi les Indiens. Et l'Osbird est emblématique pour ça, c'est-à-dire qui suis-je ? Suis-je blanche ou suis-je indienne ? Où est ma place ? Et c'est la question que l'Osbird va se poser toute sa vie et de plus en plus dramatiquement, au point de faire des fugues. Toutes les institutions pour jeunes filles où elle est envoyée, ça ne marche pas. Elle finit par atterrir dans une école indienne où elle souffre le martyr. Elle finit par être engrossée par un garçon de passage. Son père, à ce moment-là, la récupère parce qu'il ne faut surtout pas, n'est-ce pas, de faire d'esclandre. Lui continue à utiliser régulièrement sa fille comme promotion de sa propre politique, surtout quand il veut se présenter aux élections. Elle est enfermée dans une institution où elle finit par perdre le bébé. Enfin, elle vit vraiment une vie extrêmement triste, toujours soutenue par sa mère qui aura énormément de mal à récupérer de l'argent de son ex-mari pour pouvoir élever sa fille.
Et comment finit-elle ?
Elle va faire un passage dans le Wild West, mais c'est déjà la fin du Wild West de Buffalo Bill. Lui-même, il est ruiné. 1914-1915. Elle va tenter, elle va faire comme pas mal d'Indiens de cette époque, elle va tenter de se faire engager par les studios en Californie pour jouer les Indiennes. Mais c'est déjà la fin de la représentation, de la véracité dans la représentation des Indiens. Et on commence à voir apparaître des fausses squaws, et des scénarios complètement en dehors de la réalité. Et elle va mourir de mémoire en 1920 avec effectivement très 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 peu d'argent. Elle est enterrée en Californie. Et c'est grâce à une ancienne travailleuse sociale qui a écrit un livre sur elle que l'argent va être réuni pour pouvoir la transférer en 1990 à Wounded Knee.
Pour le centenaire.
Pour le centenaire, enterré à côté de ses proches dans le cimetière de Wounded Knee, là où sa mère avait été massacrée.
Il nous reste très peu de temps, Viviane Perret, mais j'aimerais qu'on évoque deux notions très importantes, celle de la citoyenneté. Les Indiens accèdent à la citoyenneté américaine en 1924. Et celle de cette politique qu'on appelle termination. Et ça, on voit ça constamment dès qu'on parle de ces questions indiennes et des Sioux en particulier. Qu'est-ce que c'est que la termination, si je puis dire ?
Mais en fait, la politique aux États-Unis a changé de manière assez constante vis-à-vis des Indiens. Alors, On a commencé à par faire des traités pour essayer de récupérer les terres indiennes. Moi, je rappelle qu'il y a quand même eu 341 traités. Il n'y en a pas un qui a été respecté envers les Indiens.
C'est-à-dire qu'on signe des traités et systématiquement, l'État fédéral lui-même bafoue le traité.
Voilà. Et donc, on arrive à cette situation d'une réserve de Pine Ridge qui n'est pas du tout le nombre d'hectares qui ont été signés. Hein. C'est vraiment une portion congrue de ce traité. Et puis, on va petit à petit diminuer la pression qui pose sur ces réserves. On va, de mémoire, en 1934, leur donner la possibilité de reparler le Lakota. Et puis, d'un seul coup, la politique change dans les années 1950.
Oui, c'est ça. En 54,
je crois. Voilà, en 54. On va décider qu'ils n'ont plus le droit à des territoires qui leur sont propres. C'est ce qu'on appelle la termination. Et là, il va y avoir une révolte. C'est pas encore le début de la véritable conscience politique qu'on va avoir dans les années 1970, mais c'est assez, et on commence à dire dans les milieux indiens, ça suffit, on a eu des traités qui ont été suffisamment violés. D'ailleurs, il y a toujours des procès qui sont en cours, entre autres pour les Cherokees, qui réclament, et aussi chez les Lakota, qui réclament que le traité soit respecté ainsi qu'il a été signé. Au moins le tout dernier traité.
Il y a encore beaucoup de travail, mais il faut quand même dire qu'en 1983, le président Ronald Reagan avait demandé au Congrès l'abolition de cette politique de termination et qu'il a reconnu la diversité des tribus et le droit de chacune d'elles à se déterminer. Ça a été un pas. Ça, on peut dire que le début, milieu des années 80 a vu la tendance s'inverser.
Elle a vu la tendance s'inverser et il y a aussi des choses qui ont beaucoup compté, qui peuvent peut-être paraître triviales, mais qui ont compté, c'est le cinéma. Alors on a vu l'apparition déjà d'une littérature indienne avec des romans. Or ça n'est pas du tout un genre littéraire indien, le roman, puisque oui, raconter des histoires, raconter la cosmogonie,
sagas, oui,
mais le roman. Et on a eu quand même le prix Pulitzer en 1969 pour Momadé. Mais aussi le cinéma a beaucoup compté. Et je voudrais parler de ce film Danse avec les loups qui est tiré d'un roman de Michael Blake. Pourquoi ? Parce que lui-même, alors déjà, c'est vrai qu'il a présenté les Sioux avec une manière romantique, mais on entendait parler Lakota, même s'il y avait une énorme erreur dans ce Lakota qui a beaucoup fait rire la nation Sioux, c'est que le Lakota est une langue à niveau, comme le japonais, suivant que la personne qui parle est une femme, un homme, qu'elle s'adresse à des
avec
proches.
Plus ou moins de respect, etc.
Exactement. Et en fait, le chef Sioux parle avec le langage qui est utilisé par les enfants Lakota. Bon, ça a beaucoup fait rire les Indiens, mais on entendait parler Lakota. L'homme rouge, l'homme peau rouge, n'était pas uniquement le traître qui décochait une flèche dans les pauvres fermiers. Il avait une vie, il avait
une épaisseur, une spiritualité.
Et ça a donné un cinéma indien indépendant avec un film extraordinaire qui s'appelle Smoke Signal et où on voit, parce que s'il y a une généralité que je me permettrais sur les Indiens, c'est leur sens de l'humour. Et dans Smoke Signal, vous avez ce jeune Indien qui avoue timidement qu'il a vu Danse avec les loups 7 ou 10 fois. Et en fait, c'est ça, c'est que ça leur a redonné de la fierté et on a vu la résurgence d'une culture indienne. Brusquement, les Indiens se sont dit « Notre culture est bonne, il faut la montrer, il faut la préserver. »
Vous les aimez, c'est Sioux Lakota, et vous savez en parler. Merci beaucoup, Viviane Perret.